L'actualité des idées dans cette dernière partie de la Grande Table. Pourquoi les classes populaires sont-elles oubliées de la grande histoire? Avec Benoît Pouscarel, nous recevons aujourd'hui l'historienne Michèle Zancarini-Fournel. Bonjour.
Bonjour.
Professeur émérite à l'Université Lyon 1, spécialiste d'histoire sociale contemporaine, auteur de Les luttes et les rêves, qui vient de paraître au label Zone, La découverte, une histoire des classes populaires en France depuis 1685. Une démarche à rapprocher d'une histoire populaire des États-Unis, d'Amérique, de l'américain Howard Zinn, et qui entend redonner une épaisseur historique à ceux qui n'ont traditionnellement pas voix au chapitre, les ouvriers, les femmes, les immigrés, les colonisés, les minorités religieuses. Votre récit commence d'ailleurs en 1685, date de l'adoption du Code Noir qui fonde juridiquement l'esclavage, date également de la révocation de l'édit de Nantes qui exclut les protestants de la vie publique. À vos côtés, le journaliste Edwige Plenel, bonjour.
Bonjour.
Directeur de Mediapart, auteur de Voyage en Terre d'Espoir aux éditions de l'Atelier, à la recherche de ces héros dont le souvenir est effacé, militant de l'égalité, point de départ de votre voyage, le Métron, gros dictionnaire biographique du mouvement ouvrier de 1789 à 1968, vaste entreprise de l'historien Jean Métron, dont nous allons reparler, qui lui a d'ailleurs donné son nom. Le tome 12 du Métron, qui boucle la période 40-68, vient de paraître sous la direction désormais de l'historien Claude Pénetier. Alors pourquoi ce voyage? Pour se redonner force et courage, écrivez-vous, destination, l'horizon d'une espérance, l'émancipation. Fidèle, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Fidèle? Un mot de l'actualité d'abord, avec vous deux. Demain était une promesse. Fidèle, l'épée de Bolivar marche dans le ciel. C'est un haïku tweeté par Jean-Luc Mélenchon samedi matin à l'annonce de la mort de Fidel Castro. Avez-vous, comme Jean-Luc Mélenchon, allumé des bougies à la mémoire de Fidèle, Edwige Plenel? Au pied de la statue de Simon de Bolivar, bien sûr.
Non, j'ai relu un texte formidable de François Maspero, qui est en introduction d'un recueil des photos de René Bury, qui était une révolution, la révolution cubaine, entre les photos d'Alexandre Corda, de Bury et de plein d'autres, très photogéniques, très romantiques. Et François Maspero, ce texte peu connu chez Nathan, est le texte le plus personnel et le plus politique qu'a fait Maspero sur... à la fois Fidel Castro et Che Guevara, puisqu'il a connu les deux. Et ce sont les deux facettes. Et en clair, il oppose le Che, qui avait un désaccord politique et qui est parti faire la guérilla, et Fidel. En clair, il faut tenir les deux bouts. Il y a une révolution que l'on voudrait enterrer avec Fidel Castro. Cette révolution était formidable. Elle ouvrait un espace nouveau qui n'était justement pas la dépendance qui va suivre avec l'Union soviétique. C'était un espoir de l'alphabétisation, la réforme agraire, une générosité, un internationalisme, un refus des logiques de puissance. Et cet enthousiasme, nous n'allons pas le piétiner comme voudraient tous les vainqueurs d'aujourd'hui qu'on le piétine. Et puis l'autre bout, après il y a la dictature. Et la dictature, il ne faut pas du tout l'effacer. Elle est toujours là, le peuple cubain l'a vécu jusque... même si ce ne fut pas comme le stalinisme, il n'y a pas eu l'extermination de la génération révolutionnaire. Il y a eu un procès de Moscou, c'est l'affaire Ochoa-Laguardia, terrible, où à ce moment-là, la révolution a dévoré ses enfants. François Maspero connaissait très bien, forcément, Tony de la Guardia, qui s'occupait de toutes les opérations spéciales du régime castriste et qui a été accusé comme un bouc émissaire à ce moment-là. Mais moi, je tiens les deux bouts. Je n'enterre pas la révolution cubaine avec Castro, mais je ne vais pas idéaliser Castro. Castro, c'est justement le piège dont nous devons sortir. Ce qui est légué au XXIe siècle, c'est de faire... à nouveau ces batailles pour l'égalité sans sombrer dans ce pouvoir personnel, dans ce verticalisme, sans renoncer sur la radicalité de la question démocratique. Le coût humain est trop cher à payer.
François Maspero, mais aussi Régis Debray ou encore Agnès Varda, ils avaient fait le voyage effectivement pour aller à la rencontre de Fidel Castro. Agnès Varda en avait fait un court-métrage fantastique, Salut les Cubains, paru en 63, réalisé 4 ans après l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir. Et c'est avec la voix de Michel Piccoli. On en écoute un extrait.
Vu de loin, il incarne l'homme de Cuba comme Gary Cooper incarnait l'homme de l'Ouest. C'est une vedette dans les rôles du barbu vociférant, du leader souriant et du maquisard hirsute. En fait, il est le premier ministre et le secrétaire général du Parti Unifié Cubain.
Fidel Castro Ruiz a 37 ans et 10 ans d'action révolutionnaire, dont 1 an de résistance, 2 ans de prison, 1 an d'exil, 2 ans de maquis, et 4 ans de révolution vivante. Il est bavard. Au long cours de ses discours, qui ont parfois duré 6 heures, il a le souci d'être clair. Il explique, il s'exalte, il représente le peuple, et le peuple le représente.
Et la révolution se produce.
Par chance, moi, je ne suis pas né avec une vocation de caudillo et je m'en réjouis fort. Même je me rappelle que pendant la guerre, je ne donnais pas mes ordres d'une façon militaire. Il m'a toujours semblé meilleur de convaincre. Les vérités de la réalité historique sont si claires, si évidentes et si tangibles que tôt ou tard, toute intelligence honnête les comprend. C'est dire qu'il ne s'agit pas d'endoctriner.
On se souvient de l'histoire Maquitra hein, de Fidel Castro qui a fait de sa défense au procès qui avait suivi l'attaque de la caserne de Santiago de Cuba en 53. Sa défense qui était devenue presque un programme distribué partout. Michel Zancarini-Fournel, la disparition du père de la révolution cubaine, est-ce que ça signe pour vous la fin du XXe siècle? Est-ce que c'est une page de l'histoire qui se tourne?
Sans doute. C'est une page de l'histoire à la fois pour les Cubains, ceux qui sont restés et ceux qui sont partis, et puis aussi pour tous les militants pour qui Cuba représentait dans les années 60, 70 et au-delà l'espoir d'une révolution pure.
C'est comme ça que l'historienne au long cours regarde aujourd'hui ce décès et les 50 années qui l'ont précédé.
En fait, moi j'ai relu les débats de qui ont eu lieu à Cuba, en particulier les débats avec les Antillais, parce que je travaille en ce moment sur les Antilles, et où justement ils avaient réussi à arracher une motion prônant ce qui n'était pas la politique des partis communistes à la fois locaux et hexagonaux, et du Parti communiste français, arracher une motion sur l'indépendance lors de la tricontinentale.
Édouard de Lépine, délégué de la Martinique, un très bon ami qui était là et qui a obtenu ça.
Michel Zancarini-Fournel, vous avez effectivement participé aussi à la commission Stora, dont on va y revenir, hein, qui se penche sur 3 temps fort de l'histoire des Outre-mer et la question de l'histoire des Outre-mer qui est aussi bien présente dans le livre que vous êtes venu nous présenter, entre autres aujourd'hui. On va y venir, donc après les lumières et les ombres de la révolution cubaine, pour reprendre le titre du grand dossier que Mediapart a consacré à Fidel Castro ce week-end. Une question, Benoît Bouscarel, on continue. Défendre une conception pluraliste de l'histoire, c'est l'objectif que vous êtes l'un et l'autre fixé. Pourquoi? Parce que l'histoire de France appartient à tous.
Oui, elle appartient à tous et particulièrement à ceux qui la font, l'essentiel de la population et non pas telle qu'elle est souvent présentée, celle des vainqueurs, des puissants, vue d'en haut. Donc c'est pour ça que je revendique une histoire par en bas. Mais qui n'est pas une histoire figée sur des catégories toutes prêtes, toutes découpées, qui est une histoire qui tient compte des contextes. Et c'est pour cela, par exemple, que en 1685, je pars du Code Noir, comme vous l'avez rappelé, mais aussi de l'interdiction pour les protestants d'exercer leur religion. Non pas que les protestants soient tous des pauvres paysans ou artisans, mais à ce moment-là, ils étaient dominés politiquement et ils étaient pourchassés par le pouvoir central. Ce pouvoir central qui est celui de Louis XIV à l'époque et qui représente le pouvoir absolu, la monarchie absolue, etc. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi consciemment cette date de départ pour justement décentrer complètement le regard, changer le cours, la façon d'écrire cette histoire de France.
Edwy Plenel, pourquoi aujourd'hui, à quel rétrécissement, quelque part, identitaire assiste-t-on, pour reprendre les mots de l'historien Patrick Boucheron du Collège de France, qui s'apprête d'ailleurs lui aussi à son tour à publier un ouvrage collectif, L'histoire mondiale de la France, qui prend racine alors bien plus tôt que le vôtre, Michel Zancarini-Fournel, avec la grotte de Chauvet, et qui suspend son vol en 2015. À quel rétrécissement identitaire assiste-t-on et pourquoi souhaitiez-vous y répondre avec cet ouvrage Edwy Plenel, Voyage en terre d'espoir?
Le poisson pourri par la tête, il n'y a pas un fait qui serait le rétrécissement identitaire. Il y a, au fond, une bataille idéologique pour nous mettre en guerre les uns avec les autres sur nos identités, sur nos origines, sur nos religions, au lieu pour étouffer les causes communes de l'égalité. Ce que j'ai voulu faire, en fait, avec les historiens qui ont fait le Métron et avec ces éditions de l'Atelier, ancienne édition ouvrière, il faut rappeler, né du christianisme social. Ce qu'on a voulu faire, et en écho avec évidemment ce que fait Michel Zancarini et plein d'autres historiens, il y a des centaines d'historiens qui ont travaillé, même vous, je crois, avez fait une notice du Métron, c'était d'exhumer ce monument qui n'est pas un monument académique. 76 volumes aujourd'hui, de 1789 à 1968, près de 170 000 notices que vous pouvez consulter en ligne. C'est l'histoire des méconnus, des moins connus, c'est cette histoire. Jamais il n'y a de grands hommes. Les grands hommes n'existent que parce qu'il y a des peuples. Vous nous interrogiez sur Fidel Castro, c'est le peuple cubain qui fait une révolution. Ce n'est pas Fidel Castro, c'est une dynamique. Et il faut sortir, même s'il y a un rôle des individus dans l'histoire, de cette façon de ramener des événements historiques à un seul, au grand temps et au grand même du pouvoir et de l'identité. Alors j'en reviens au Métron, c'est une œuvre que je visite depuis très longtemps parce que elle me réconcilie. Ceux qui se lamentent aujourd'hui, ceux qui se disent l'espoir est bouché, nous avons aujourd'hui une ultra-droite et une gauche en partie convertie à la droite qui veulent s'attaquer à nos droits. Il faut écouter l'époque dans laquelle nous sommes. On veut mettre en cause la durée obligatoire du travail. Pourquoi pas le travail des enfants pendant qu'on y est. On veut s'attaquer, malgré ce qui a été dit sur votre antenne tout à l'heure, à la sécurité sociale, c'est-à-dire au droit à la santé. On veut s'attaquer, et on l'a entendu dans le débat de droite, au droit des femmes. Donc on veut s'attaquer à quoi? À toute cette histoire qui, depuis plus de deux siècles, est le mouvement de l'égalité. Nous naissons libres et égaux en droit, sans distinction d'identité, d'origine, de condition, de sexe, de croyance, d'apparence. Et c'est ce mouvement qui nous a fait ce que nous sommes.
Là, c'est pas tant s'attaquer à une histoire que revenir éventuellement sur des acquis.
Oui, bien sûr.
Mais de cette histoire.
C'est un passé plein d'à présent. C'était convoquer tous ces petits fantômes. C'est justement, quand je dis redonner force et courage, c'est se dire que tout cela, ils se sont battus sans avoir des garanties de succès pour imposer. C'est un mot-clé, république démocratique et sociale, les démosocs, les marianeux, c'est-à-dire ce moteur de l'égalité qui fait, pour faire écho à ce que vous disiez tout à l'heure sur les minorités, les minorités, c'est pas une question quantitative, c'est une question, une construction politique. Il y a dans une des notices que j'exhume, celui qui était à l'origine sous la première internationale de l'appel des 60. Le monde ouvrier, le monde des salariés, le monde des travailleurs était quantitativement majoritaire dans les fabriques et tout. Mais ils étaient politiquement minoritaires. C'était les bourgeois qui parlaient en leur nom. Et à ce moment-là, ils font un appel et ils disent « on veut parler nous-mêmes, on veut s'organiser nous-mêmes, on veut être entre ouvriers, on veut que ce soit les propres experts de notre histoire ». Et ça vaut pour les droits des femmes, ça vaut pour les droits des minorités liés à l'origine, à la croyance. C'est ce combat pour l'égalité, eh ben, il est toujours là et il va falloir plus que jamais le mener.
Et vous savez pourquoi Jean Métron, lui, se lance dans cette vaste entreprise, dans ce gros œuvre?
Allez-y.
Pourquoi? Écoutez-le, bien sûr, j'ai la réponse.
Vous avez la réponse.
Attendu, ben oui.
J'étais sans projet, sans travail, et certains historiens étrangers, notamment, m'ayant demandé à plusieurs reprises des renseignements biographiques sur certains militants du mouvement ouvrier français, j'ai eu la conception d'un dictionnaire, étant donné qu'en France même, nous n'avions aucun instrument de travail dans ce domaine.
Est-ce qu'il n'y avait pas eu quand même, au moins partiellement, des dictionnaires du socialisme?
Oui, il y en a trois ou quatre, n'est-ce pas, y compris et aussi une encyclopédie du mouvement anarchiste. Mais tout ça ne constituait pas, à proprement parler, un dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français.
C'est-à-dire que ça ne traitait pas de l'ensemble du mouvement ouvrier, et aussi sans doute que ça avait été fait dans des conditions qui n'étaient pas très exactement scientifiques.
Oui, mais ce n'était pas le reproche essentiel. C'est plutôt qu'un nombre très restreint de militants figurait dans les dictionnaires socialistes de Vérec ou animés par Compère Morel.
Voilà la voix de Jean Métron racontant son entreprise, Michel Zancarini-Fournel. C'est une vraie mémoire du militantisme, ce Métron. Vous l'avez consulté, vous avez beaucoup travaillé avec, en plus d'en avoir rédigé certaines notices.
Oui, j'ai rédigé une notice. Mais je voudrais rendre Clovis Andrieux, dirigeant syndicaliste du bassin stéphanois pendant la guerre de 14-18. Mais je voudrais rendre grâce, si je peux dire, à Métron, parce que c'est lui qui m'a publié cette notice. Donc c'était ma première publication, très jeune historienne. Et par ailleurs, c'est lui qui m'a conseillé dans la forme de mon mémoire de maîtrise et en me proposant de faire des biographies d'hommes et de femmes qui étaient présents dans les archives de police.
Et il y avait déjà cette idée d'incarner l'histoire, voilà. et lui donner un visage.
Ouais. Et j'en avais 350 et il en a retenu un, de dirigeant syndicaliste.
Voilà. Alors comment ça se fait que ce Métron, on ne le trouve pas dans les bibliothèques de l'école ou en tout cas, on ne l'amène pas dans les classes.
Oui, pas dans les classes, mais dans les bibliothèques. Dans les bibliothèques, on le trouve.
Maintenant, on a fait ça, ce voyage en Terre d'Espoir, avec donc une sorte de voyage comme un voyage amoureux dans le Métron pour donner envie d'aller y voir, de découvrir que ce n'est pas justement un monument académique, que c'est un instrument, c'est l'anti-roman national, c'est l'anti-histoire. Histoire verticale, c'est l'anti-histoire identitaire, parce que l'égalité, ce sont des histoires de déplacement. On n'est pas assigné à sa condition, à son origine, on n'est pas fixé, on peut bouger, et vous avez des itinéraires là formidables. Mais non seulement aujourd'hui, quand vous disiez on ne le trouve pas, ben si, parce qu'il est accessible à tout le monde, il est en ligne maintenant, et donc on peut aller se promener là-dedans. Mais ce que je voudrais souligner par rapport à votre échange, c'est que aujourd'hui, parler d'une histoire d'en bas, depuis, il y a eu Michel Foucault, il y a eu Arlette Farge, il y a eu Carlo Ginzburg, il y a eu beaucoup. Ce travail est très présent. Mais quand, dans les années 50, Métron a cette idée unique, parce que c'est le plus grand dictionnaire biographique en langue française, du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français qui deviendra mouvement ouvrier, mouvement social, avec des dictionnaires thématiques, un volume sur le mouvement ouvrier francophone aux États-Unis formidable. On parlait des Outre-mer et de la colonisation, des volumes sur l'Algérie, sur les pays du Maghreb, y compris la projection en Asie. Enfin, il y a, et dans cette idée-là, c'était le premier à dire, y compris une mention dans un petit tract, dans un petit rapport de police, quelqu'un qui, à un moment, a été dans l'émancipation et dans son combat, mais qui après disparaît, on garde cette trace. Parce que cette trace est porteur de futur, elle est porteur d'avenir. C'est pour ça, je le redis, ce sont des petits fantômes consolants. Cela nous redonne du courage, parce que quand même, ils sont là, et puis ils se sont battus, et sans eux, on ne serait pas là.
Alors Michel Zancarini-Fournel, vous vous mettez sous l'ombre, la tutelle de Howard Zinn et de son histoire populaire des États-Unis. Vous en parlez, vous l'évoquez en introduction de cet ouvrage, cette vaste somme que vous publiez actuellement chez Zone, Les luttes et les rêves, une histoire populaire des États-Unis. C'était un best-seller qui a été publié en France, notamment par Agone, signé Howard Zinn, l'historien et politologue de l'Université de Boston, revient sur ce processus au micro de Daniel.
When you go to school in the United States, you are given a textbook of history.
Quand vous allez à l'école aux États-Unis, on vous donne un manuel d'histoire.
Which is very fat.
Qui est très épais.
And you then deceived into thinking that it is all there, the history, the entire history.
Tout est là dans ce livre. L'histoire entière des États-Unis tient dans ce livre.
And you are not told that so much has been omitted.
Et on ne vous dit pas que tel et tel aspect de l'histoire américaine a été omis.
When they are telling the story of the economic history of the United States, they emphasize the work of Rockefeller, Carnegie, Morgan, the great entrepreneurs.
C'est pourquoi dans l'histoire économique des États-Unis, ce qui est souligné, ce sont les faits d'armes des grands entrepreneurs.
Les barons voleurs.
The robber barons. Yes, exactly. But they don't call them robber barons. They call them captains of industry.
Mais on ne les appelle pas les barons voleurs, on les appelle les capitaines de l'industrie.
But they leave out of the history books all of the great strikes that took place in the United States.
Mais ce qu'ils omettent, ce sont toutes les grandes grèves de l'histoire américaine.
Bloody, violent strikes.
Très sanglantes.
In which the working class faced the police, the army.
Et la classe ouvrière s'est confrontée à la police, s'est confrontée à l'armée.
That's how the 8-hour day was won.
C'est exactement comme ça qu'on a gagné la journée de 8 heures.
But if you don't know about those struggles, you think that the 8-hour day was a gift to the working class.
Mais si vous ignorez tout de ces grandes grèves, vous pensez simplement que la journée de 8 heures a été donnée généreusement par les dirigeants.
So when you omit these struggles, you create a population which is passive, which is waiting for gifts from the people who run the country.
C'est pourquoi en omettant ces grandes luttes, vous créez une population qui est passive et qui attend.
Une population qui est passive et qui attend, qu'il faut réintégrer aussi dans la course, dans le mouvement de l'histoire, hein, Michel Zancarini-Fournel, c'est ce que vous avez souhaité faire. Pourquoi toujours regarder l'histoire du côté des vainqueurs et pas du côté des vaincus? Vous écrivez l'un et l'autre qu'ils incarnent quand même chacun à leur manière. C'est possible de l'histoire. Hein. Ça, c'est vous, Edwige Plenel, Michel.
Oui, j'ai voulu aussi ne pas faire seulement une histoire des organisations, mais faire une histoire du quotidien. C'est-à-dire que des luttes, des grèves, il y en a beaucoup, et j'en ai, je crois, évoqué un certain nombre. Mais il y a aussi une histoire de tous les jours. La continuité des jours, disait Jean-Nicolas. Et je crois que cette continuité des jours, elle est aussi importante pour comprendre comment vivent hommes et femmes, libres et esclaves, dans ces 3 siècles et demi qui sont évoqués dans le livre.
Howard Zinn, une histoire populaire américaine. Il y a aussi un film réalisé par Daniel Mermet et Olivier Hazan qui est toujours visible et disponible. On retrouve aussi Noam Chomsky. Quand on vous présente un manuel d'histoire, dit Howard Zinn, on ne vous dit pas que tel ou tel aspect ont été omis. Quelles sont pour vous, Michel Zancarini-Fournel, quand même les principales zones d'ombre de l'histoire française?
Alors pour moi, l'essentiel zone d'ombre est effectivement l'histoire coloniale, la vie quotidienne des gens dans les colonies, non pas l'histoire coloniale au sens de conquête, de l'empire, etc., même s'il y a des choses qui ont été faites, c'est d'abord cette histoire-là, l'histoire coloniale qui démarre au XVIIe siècle hein, et qui va s'étendre sur un territoire extrêmement important avec des statuts très différents. Et c'est cette diversité de statuts, c'est cette complexité que j'ai essayé de rendre compte. Les deuxièmes oubliés de l'histoire, même si maintenant elles sont reléguées dans quelques dossiers, dans certains manuels, ce sont les femmes. Et là, j'ai essayé aussi de faire un récit qui les mette, non pas séparées dans le récit historique, mais qui sont de plein pied et qui sont complètement partie prenante à leur place. Et souvent d'ailleurs à leur place, démarrant des émeutes, démarrant en tête des manifestations. Il faut rappeler le sens de la manifestation du 5 et 6 octobre 1789, où les femmes sont allées à Versailles, les femmes de la Halle, mais pas seulement, les femmes aussi du Faubourg Saint-Antoine, sont allées à Versailles, ont ramené le roi, la reine et le dauphin, et ça a changé le cours de la Révolution, parce que l'Assemblée aussi, les clubs se sont transportés de Versailles à Paris, et sous la gouverne, enfin en tout cas la surveillance du peuple de Paris.
Mais typiquement, si on prend l'exemple des femmes, vous le dites, le fait qu'elles soient moins visibles aujourd'hui ne veut pas dire qu'elles étaient inactives, voire passives, loin de là. Alors comment expliquer qu'elles soient devenues les grandes oubliées de l'histoire?
Parce que l'histoire universitaire telle qu'elle s'est construite et qu'elle a été enseignée, à partie prenante avec l'histoire de l'État, de la Troisième République. Et la Troisième République, c'est une histoire de succession, des règnes, des régimes, des présidences de la République, et pas une histoire des femmes. C'est que dès le départ, les femmes ont été absentes de l'histoire universitaire, traditionnelle, et aussi de l'histoire enseignée, puisqu'elle a été faite, comme on le sait, par de grands universitaires, les premiers manuels scolaires.
Edwige Plenel, quelle autre histoire se dessine si on regarde d'en bas? Est-ce qu'on arrive à raconter effectivement une autre histoire et se rend compte qu'une autre histoire est possible si on ne regarde pas avec le même prisme, du même endroit?
C'est une vieille bataille. Il y a l'histoire antiquaire, c'est une formule de Nietzsche, hein. C'est l'histoire musée, c'est l'histoire qu'on enferme, qu'on fige, c'est l'histoire qui vous assigne justement, qui vous immobilise. Elle crée aussi cette république sans adjectif. Dressez l'oreille quand vous entendez des gens parler de la République et ne pas rajouter démocratique et sociale. Ce sont des gens qui veulent que la République soit immobile, qu'elle ne bouge plus, qu'elle soit du côté des possédants, du côté de ceux qui sont justement les vainqueurs, l'éternité des vainqueurs, qui n'ont que leur loi de pouvoir et de puissance et d'avoir. Donc, vous me dites l'autre histoire. Moi, je dirais l'histoire toute simple. L'histoire ne fait rien. C'est une phrase de Friedrich Engels que j'aime beaucoup. L'histoire, elle ne fait que nous attendre. Donc, l'histoire, elle dépend d'abord de ce que nous en ferons, nous. L'histoire n'est pas une fatalité qui nous tombe dessus et qui s'imposerait à nous. Tous les pouvoirs autoritaires, quels qu'ils soient, ou tous les pouvoirs qui sont du côté des privilèges, de l'oligarchie, de la domination, veulent cette sorte d'histoire musée qui tombe. L'histoire dont nous parlons, c'est cette histoire dont nous sommes les acteurs. Donc, revisiter tout cela, c'est nous dire, attendez, voilà, cette histoire, elle vous attend, elle est là, elle est devant vous, notamment pour la jeunesse. Parce que tous ces itinéraires de vie que nous convoquons comme cela, eh bien, on s'aperçoit que tous ces gens, à un moment, ont pris leurs risques, ont bougé, se sont interrogés, qui n'ont pas été prisonniers, forcément, d'idéologie. C'est aussi enjamber le XXe siècle, revisiter tout ça. Parce que le XXe siècle nous a donné ce poids des partis, des défaites liées au chagrin politique, le stalinisme, la social-démocratie. Là, c'est retrouvé, et c'était très bien de partir de la Révolution française, ou même de rappeler la longue durée de notre histoire coloniale, eh bien, c'est retrouvé toute cette longueur d'un ébranlement qui est l'histoire qui bouge.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Avec mes invités, l'historienne Michèle Zancarini-Fournel, qui publie Les luttes et les rêves à la découverte au label Zone. Vous nous disiez dans la première partie de cette émission que l'histoire de France appartient à tous et surtout à ceux qui la font, soit la population française et non pas uniquement les vainqueurs. À vos côtés, le journaliste Edwy Plenel, fondateur de Mediapart, qui est longuement revenu sur cet objet massif qu'il a inspiré, le Métron, le plus grand dictionnaire de l'histoire ouvrière en langue française que vous avez qualifié d'anti-roman national. Peut-être un mot, l'un et l'autre, des couvertures de vos livres, parce qu'il ne faut pas croire que Claire Maillot vous a réuni autour de cette grande table, la programmatrice de l'émission, parce que vous avez des choses à vous dire ou des regards croisés. Pas du tout. C'est parce que vous avez des couvertures de livres qui se ressemblent beaucoup. Non, sérieusement. Revenons là-dessus. Pourquoi vous avez choisi ces deux photos? Qu'est-ce qu'elles illustrent? Qu'est-ce qu'elles représentent de votre côté, Michèle Zancarini-Fournel?
Alors,
on voit une manifestation, une contestation.
Oui, c'est une manifestation.
De quand, de quoi?
De quand, c'est un problème. C'est-à-dire, a priori, on penserait à une manifestation de 36. C'est donc un groupe de gens au bord d'un canal. Et avec des hommes, des femmes de tous âges, il y a une grand-mère et puis il y a une très jeune fillette, point levé pour certains, et donc on imagine le Front populaire. En réalité, c'est probablement une photographie de la grande grève de la batellerie de 1933, et je me suis interrogée longuement pour ça, pourquoi ces points dressés qu'on trouve généralement plus tard, à partir de 1935, environ 1936. Et c'est probablement par des juifs allemands réfugiés dans l'est de la France que cette pratique, qui est un emblème d'un des groupes allemands, s'est répandue, on peut dire, dans les syndicats, parmi les manifestants de l'est de la France, parce que c'est une photo qui a été prise donc à la jonction du canal de l'Aisne et de la Marne. Je voudrais signaler qu'on voit des petites voitures.
Ouais, ouais.
C'est en fait les voitures qui permettaient de tracter les bateaux au moment des écluses. Et moi, j'ai choisi cette photographie. Enfin, j'ai choisi. On m'a proposé des iconographies et celle-ci m'a plu à cause de la pancarte centrale qui me semblait résumer une grande partie de ce que j'ai voulu faire dans ce livre.
Et qui dit nous voulons
être traités comme des êtres humains. Et c'est une revendication qui est à la fois celle des esclaves antillais ou réunionnais, que des prisonniers des années 70, que des grévistes des années 30.
Edwy Plenel, caractère rouge, fond blanc et photo pour vous aussi en noir et blanc. Qui est cet homme qui harangue la foule ?
Voyage en terre d'espoir, la couverture là aux éditions de l'Atelier, c'est un de ces méconnus qui symbolise cet itinéraire qu'il y a dans ce livre, puisque c'est Alphonse Baudin qui aujourd'hui dort au Panthéon, alors que personne ne le connaît. Il a 40 ans, là, il est sur une barricade, la dernière barricade qui va tomber le 3 décembre 1851, qui dit non au coup d'État du futur Napoléon III, le premier président de la République élu au suffrage. Qui n'était pas tout à fait universel, les femmes ne votaient pas. Et c'est donc l'homme qui symbolise le non au pouvoir personnel, au présidentialisme, au césarisme, au bonapartisme. C'est une mort inutile, c'est déjà perdu, mais les ouvriers que la Deuxième République n'avait pas toujours, pour le moins, ménagés, sont pas dressés autour de lui. Il y a des provocateurs qui le moquent et il dit « Vous allez voir comment on meurt pour, je crois, 40 francs, ce qui était le revenu des députés. » Et donc, cette mort inutile va être, et c'est là où on est au cœur du présent, du passé plein d'à présent, un symbole. Donc il meurt sur cette barricade, et puis il y a un témoin qui est Victor Schœlcher qui le raconte à Victor Hugo, et Baudin, et la quête pour le monument à Baudin, le symbole de la résistance de Baudin, deviendra l'emblème au fond des républicains et de l'exigence démocratique et sociale. Alors pourquoi il est en couverture ? C'est que c'est le point de départ du voyage. Quand je gare mon Vélib, et que je le reprends, la station de Vélib, à côté des locaux de Mediapart, près du Faubourg Saint-Antoine, eh bien, c'est juste à l'endroit où il y a toujours la vieille maison, la plaque, où cet homme est mort. Et il est mort pour la République démocratique et sociale, pour l'égalité. Donc, il nous accompagne toujours.
Edwige Plenel, le député Alphonse Baudin, le journaliste républicain Charles Delescluze, l'homme de lettres Henri Lefort, l'ouvrier typographe Georges Duchesne, l'anarchiste Sébastien Faure, Yann Soyer, militant autonomiste breton. Toutes ces figures sont à retrouver dans votre voyage en terre d'espoir. Vous dressez une centaine de portraits. On entend que, comme pour les héros, les personnages de Michel Zancarini, ils ont tous en commun d'être entrés en résistance à un moment d'une manière ou d'une autre contre l'ordre établi. Il nous reste 2-3 minutes. J'aimerais bien qu'on revienne avec vous, Michel Zancarini-Fournel, sur une partie importante aussi de cet ouvrage. C'est l'histoire des Outre-mer, autre méconnu de l'histoire de France. À ce sujet, vous avez participé, on le disait, à la commission Stora sur les événements de décembre 59 en Martinique, de juin 62 en Guadeloupe et en Guyane, et de mai 67 en Guadeloupe. Que s'est-il passé ?
Aux Antilles, vous voulez dire ? Ah oui. En 59, il y a eu des émeutes, une rébellion, selon de quel côté on se situe, où trois jeunes ont trouvé la mort. Et il y a eu des émeutes qui ont secoué la ville. C'est une histoire qui était connue et nous sommes penchés surtout sur le contexte et sur la façon dont c'est trop. Quel était le. Comment ces trois jeunes ont été effectivement tués et par qui ? Et par quelle force de l'ordre ? Parce qu'il y avait à la fois des CRS qui ont été ensuite interdits en Martinique. Il y avait aussi de la police locale. Et puis, quels étaient ce qu'ils voulaient faire ? Est-ce qu'ils étaient de simples émeutiers, des passants, etc. ?
C'était des collégiens qui n'avaient rien fait et qui sortaient de l'école et qui ont été tués après un incident raciste. C'est un drame.
Et votre père, Alain Plenel, Edwige Plenel, votre père, N'oubliez Alain Plenel, pas. Géographe, universitaire, vice-recteur de la Martinique, oui. Était là au moment de ces émeutes de 59 où les trois jeunes ont été tués, au moment de cette altercation à Fort-de-France. Et lors des obsèques des trois garçons, il prononcera un éloge funèbre qui sera perçu, hein, je crois, par le pouvoir gaulliste comme un appel à la subversion et à l'agitation. Il sera limogé par la suite et renvoyé sur Paris. Cette mémoire, un dernier mot ?
Oui, oui, parce qu'il y a deux autres événements qu'il ne faudrait pas oublier. Donc 62, c'est les suites d'un accident d'avion. C'est un accident. Et 67, surtout, qui était un véritable massacre à Pointe-à-Pitre à la suite d'une réunion d'ouvriers et d'ouvriers du bâtiment et de patrons qui négociaient et qui a fait d'une dizaine de morts, 8 en tout cas seulement reconnus.
Merci beaucoup à tous les deux. Les luttes et les rêves, Michel Zancarini-Fournel, une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, vient de paraître chez Zone, La Découverte. Merci à vous, Edwige Plenel, Voyage en terre d'espoir, aux éditions de l'Atelier. À noter aussi que vous serez ce soir avec les comédiens Robin Renucci, Florian Sidbon et Nadine Darmon à la Maison des Métallos pour une belle soirée de lecture. En votre présence, il y aura aussi Claude Pénotier et Paul Boulan, les co-directeurs du Métron, aujourd'hui, à retrouver à partir de quelle heure ?
19h.
19h dans le 11e à Paris. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table. Aujourd'hui aux manettes, Luc-Jean Reynaud avec Anthony Thomasson. À demain.